Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Canada. Poker Menteur ce soir un peu plus, entre guillemets, triste parce que mon ami Patrick n'est pas là. Mais nous avons en échange deux invités. Et deux invités sur le thème que vous allez deviner facilement en écoutant cela. Il s'agit, vous l'avez reconnu, du fameux Haka de la Nouvelle-Zélande, hein, qui lance en fait les débuts de match officiels de cette équipe et qui est célèbre dans le monde entier. Alors, lançons maintenant notre fameux « Qui suis-je ?». Qui suis-je ? On m'appelait Casque d'or. Évidemment, nous aurons la réponse en fin d'émission. Alors, nous avons donc ce soir deux invités que je vais demander de se présenter. Vous avez tout d'abord monsieur Frédéric Miguet, qui a de nombreuses casquettes, et monsieur Philippe Dautrive. Alors, commençons tout d'abord par monsieur Miguet. On vous écoute.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Frédéric Miguet, né à Villefranche-sur-Saône, un Caladois pure souche, émigré dans les crues du Beaujolais pour sa profession de vétérinaire.
Oui, sympathique, oui. Voilà.
Et puis donc, président du club de rugby de Villefranche-sur-Saône depuis 2015.
D'accord. Autre activité ?
Une petite activité, c'est que je suis maire de la commune depuis 19 ans.
D'accord. Très belle commune, un très beau village.
D'ailleurs. Oui, on est très bien dans les crues du Beaujolais. C'est très agréable dans la vie de tous les jours.
Heureux homme. Et monsieur Dautrive, allez-y.
Eh bien, moi, je n'ai fait que l'intermédiaire, puisque je connais Frédéric. Et il se trouve qu'il y a 50 ans, parce que malheureusement le temps passe, je jouais au rugby, mais à Belleville, dans un club rival. Mais c'est pas grave.
Non, on est tous sympas et on s'entend bien sur Poker Menteur. Alors, commençons par, vous savez, vous connaissez mon métier, c'est l'histoire. Donc, une petite histoire, la petite histoire, ou la grande histoire, on ne sait pas, du rugby. Alors, monsieur Miguet, est-ce que c'est bien William, à votre avis, ou Ebelis, qui est l'inventeur du rugby, et quelle anecdote pourrait-on développer à travers ce personnage ?
Alors, vous m'avez interrogé juste avant l'émission, donc j'ai été un peu... je suis vite allé voir sur Wikipédia. Et donc, sur Wikipédia, c'est d'après la légende. Donc, est-ce que la légende est vraie ou fausse ? Mais effectivement, c'est William Webb Ellis qui serait l'inventeur du rugby en prenant la balle par la main pendant une partie de football.
Oui. Alors, monsieur Dautrive, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah écoutez, de toute façon, comme on dit, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai.
Tout à fait. Alors, origine du rugby, est-ce qu'on peut dire que le rugby était un sport aristocratique au départ ?
Je pense que c'est... Bon, donc il est né en Angleterre.
Oui.
Et puis après, il a traversé la Manche, puisque le premier club français a été créé au Havre en 1800 et quelques. Mmh. Et puis après, il a une forte implantation dans le sud-ouest. Mais je pense qu'au départ, c'était surtout un sport universitaire.
D'accord. Alors, pouvez-vous citer des clubs universitaires célèbres, par exemple ?
Le premier titre de champion de France, d'après dont je me rappelle, c'est le SCUF, Sporting Club Universitaire de France, qui est détenteur du bouclier de Brennus.
D'accord. Ça, je ne savais pas.
Voilà. Qui joue en noir et blanc. Et qui a toujours le bouclier de Brennus sur sa manche gauche.
Et ça se passait dans quelle ville, ça ?
À Paris. Paris.
C'était Paris, oui.
Après, il y a des clubs universitaires très célèbres. Hein, le PUC, bien évidemment.
Oui.
Violet et blanc. Il y a le Loup, à côté de chez nous. Lyon Olympique Universitaire. Mm-hmm. Et puis, il y avait aussi des clubs universitaires à Clermont, à Toulouse, à Bordeaux.
Alors, qu'est-ce qui pourra expliquer l'implantation assez rapidement quand on évolue dans le temps, dans le sud-ouest, plus que dans le nord.
Alors là, j'ai pas d'explication. À ma connaissance, j'ai pas d'explication particulière.
D'accord.
Alors, je pensais que vous alliez me demander pourquoi c'était dans le monde universitaire.
Alors oui, c'est une question que j'aurais pu vous poser.
Parce qu'il faut peut-être être supérieurement intelligent pour jouer au rugby, c'est ce que je m'étais dit.
Par rapport au football, notamment.
J'ai pas donné d'autres sports, mais voilà, c'était un...
Mais vous savez qu'il y a un point commun entre, là, à ce niveau-là, entre le football et le rugby, parce que le premier club de France a été le Havre aussi, oui. Le HAC. Donc il suffisait de traverser la Manche pour pouvoir effectivement s'implanter ces deux sports qui sont devenus quand même des sports, même si on verra tout à l'heure beaucoup moins de pratiquants dans le rugby, des sports quand même très célèbres dans le monde entier.
Alors pour l'implantation dans le sud-ouest, peut-être qu'il y a une forte colonie anglaise, Bordeaux, Bayonne, Biarritz. Oui. Alors peut-être que c'est eux qui ont amené cette pratique dans cette région, mais je n'ai pas l'explication finale.
Alors revenons-en maintenant à des choses basiques. Expliquez-nous un peu les règles concernant les points dans un premier temps.
Donc le rugby se joue à 15,
oui, déjà.
Avec 8 avant qui constituent la mêlée et la touche. Un demi de mêlée qui récupère la balle après la mêlée ou la touche et qui la passe à ses trois quarts. Et le premier trois quarts, c'est le demi d'ouverture qui ouvre sur les trois quarts centres ou les trois quarts ailes. Et il y a un arrière qui est le numéro 15, qui est le dernier dans la lignée.
Alors physiquement, généralement, les plus lourds sont devant, c'est ça ?
Les plus lourds sont devant et puis les plus agiles sont derrière, qu'on appelle les gazelles.
Voilà. D'accord. C'est un peu l'inverse du football, d'ailleurs. Parce qu'en fait, au football, souvent, les plus lourds, c'est les défenseurs centraux. Ou...
C'est vrai, voilà.
Et parlez-nous des points, l'évolution
alors,
des pions de points.
Le but, c'est de marquer l'essai. Donc, on franchit la ligne dans but.
Il faut bien aplatir.
Il faut bien aplatir sur la ligne ou derrière la ligne dans but. Mmh. Et l'essai vaut 5 points. Et donc, on transforme l'essai entre les perches, donc selon la position où on a marqué l'essai, c'est difficile si on est sur le long de la touche, c'est plus facile si on est en face des buts. Et donc la transformation vaut 2 points.
D'accord.
Donc un essai transformé, c'est 7 points, et un essai non transformé, c'est 5 points.
Et le drop ?
Le drop, c'est 3 points.
Et comme la pénalité ?
Comme la pénalité, c'est 3 points.
Alors rappelez-nous aussi, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas la règle de l'en avant.
Bah en fait, pour passer la balle à son partenaire, il faut qu'elle soit en arrière. Elle ne doit ni être en avant, ni sur la même ligne. Si elle est sur la même ligne, c'est en avant.
D'accord.
Et donc, l'essai, il y a trentaine d'années, il valait 3 points. Après, il est passé à 4 points. Maintenant, il est à 5 points. Si vous voulez, c'est pour que le rugby soit un sport plus dynamique et où l'essai prédomine par rapport aux pénalités.
Prime effectivement sur le jeu au pied en fait.
Voilà.
Et parlez-nous aussi tout simplement des dimensions du terrain par rapport au football.
Alors je reviens en arrière sur les points. Il faut, depuis une dizaine d'années, si on gagne par 3 essais d'écart en France, sur le championnat français, on a un point de bonus offensif. Donc ça a aussi dynamisé les parties. Parce que quand il y avait une équipe qui menait avec un certain nombre de points, pas spécialement 3 essais d'écart, le match était un peu monotone. Et le fait d'aller chercher le point de bonus offensif, ça a beaucoup dynamisé les matchs.
D'accord. Et la vidéo dans tout ça ? Après, on va revenir sur les dimensions. La vidéo ?
Depuis cette année... la vidéo...
En tant que telle, oui.
La vidéo au niveau professionnel est implantée depuis longtemps et au niveau international depuis très longtemps également.
Donc, bien en avance sur le football, sur la VAR du football.
Oui.
Donc, revenons-en aux dimensions du terrain globalement.
C'est une centaine de mètres de long et une cinquantaine de mètres de large.
Donc, c'est un peu plus petit qu'un terrain de football.
À peu près, c'est à peu près les mêmes dimensions.
Oui. Bien. Alors, après cette présentation générale, on va voir maintenant une présentation du rugby, mais d'une façon beaucoup plus locale. Alors, que peut-on dire, par exemple, du dynamisme du rugby dans le Rhône, globalement ?
Donc, vous faites allusion à un article qui est paru dans la presse locale il y a quelques jours.
Tout à fait, c'est fait.
Donc, qui montre une stagnation des effectifs du rugby au niveau... national, mais pas au niveau départemental, puisqu'on a une légère progression. Et au niveau du club de rugby de Villefranche, on a une progression qui est assez conséquente également.
Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette progression ?
Dans notre club, c'est déjà on a une forte quantité de bons éducateurs, si vous voulez. Mmh. Les enfants, ils viennent à la pratique parce qu'ils ont un bon éducateur, un bon entraîneur. Moi, j'ai commencé le rugby à l'âge de 8 ans et on se souvient toujours de son premier éducateur, de ses premiers entraîneurs. Et c'est un facteur extrêmement important pour un club formateur d'avoir une palette d'entraîneurs. Et c'est ce qu'on a depuis très longtemps à Villefranche.
Alors, je pense que M. Dautry va parler un peu de son expérience dans le rugby. Là. Vous avez été entraîneur, il me semble.
Ah non, moi, je n'ose pas le dire là. J'étais entraîneur de football en fin de carrière.
Ah, mais je crois qu'il y a des points communs, peut-être. Est-ce qu'il y a des points communs?
C'est un sport collectif.
Oui.
Et puis, quand on est entraîneur, il faut dynamiser le groupe. Voilà.
D'accord.
J'ai bien aimé les deux, jouer au rugby et entraîneur de foot.
Et qu'est-ce qu'on en garde avec le temps?
Eh bien, l'esprit du collectif.
C'est l'esprit du collectif qui
compte. Comme disent les militaires, un soldat isolé est un soldat mort, ça on l'apprend au rugby.
Et le mental doit avoir un rôle capital.
Capital.
Hein, je repense à l'élimination de Paris Saint-Germain contre Manchester en football. On se dit, enfin pour moi, j'ai trouvé ça lamentable. Ils sont passés totalement à travers. Et c'était sans doute le match le plus important pour eux de l'année. Et on s'est dit, mais est-ce qu'ils ont un mental? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et on se rend compte qu'effectivement, mais d'ailleurs, dans beaucoup d'activités, le mental fait tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, tout à fait. Alors, cette année, à Villefranche, on a de très bons résultats dans toutes les catégories. Une des premières raisons, c'est que à chaque niveau, c'est des équipes de copains. Et quand on joue au rugby avec des copains, c'est plus facile que quand on joue avec des gens avec lesquels on a moins d'attache. Et l'essence de Villefranche, c'est la formation. Et on a une génération de joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps. Et c'est des copains et c'est extrêmement important.
Parlons-en aussi. Donc, parlons maintenant du... En fait, quand on regarde cet article, on nous parle du nombre de licenciés. En fait, le rugby n'est que 13e en termes de licenciés dans le département du Rhône. Et quand on regarde le football, vous avez des écarts considérables. Ça reste en fait encore, je dirais pas un sport élitiste, mais un sport qui intéresse une minorité. Est-ce qu'il y a un effort qui est fait maintenant auprès des jeunes pour découvrir ce rugby?
Alors, je partage tout à fait votre analyse. Hein, quand on regarde la situation sur Villefranche, il y a beaucoup de clubs de foot, il y a des clubs dans tous les quartiers, mais il y a un seul club de rugby. Et c'est vrai qu'on est, on a du mal un peu à pénétrer dans certains quartiers, on peut le dire. Donc cette année à Villefranche, on a fait déjà 3 interventions dans les quartiers avec des effets bénéfiques, puisqu'il y a des enfants qui sont venus signer au club de Villefranche. C'est vrai que le rugby est peu assimilé dans ces zones urbaines.
Et pour en venir et terminer sur le Rhône, est-ce que vous ne croyez pas que aussi les bons résultats du Loup, le club de Lyon, ont permis effectivement au rugby se développer dans le département? Est-ce que ça a joué?
Bien sûr, ça joue, mais on revient aussi à la base, c'est que Lyon est une ville universitaire. Nous, par exemple, à Villefranche, on a beaucoup d'étudiants qui sont étudiants à Lyon et qui viennent jouer à Villefranche. Et c'est aussi quelque chose qu'on constate en France. Il y a des zones où il n'y a pas d'université, et pour les clubs, c'est plus compliqué de conserver des licenciés.
D'accord. Alors, monsieur Dautrive, petite question sur le Loup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, parce que je ne connais pas du tout, hein, quels étaient les résultats du Loup, par exemple, il y a 10 ans par rapport à maintenant?
Ils étaient nettement en dessous.
C'est-à-dire?
Ils étaient... alors là, je sais moins bien que Frédéric. Est-ce qu'ils étaient seulement dans le top 14 il y a 10 ans? C'est pas sûr.
Ils se baladaient. Ils étaient en Pro D2.
Oui. Ils étaient en Pro D2, oui. Et maintenant, c'est un des clubs leaders du top 14.
D'accord.
Maintenant, ils ont... Vraisemblablement, ils feront les poules finales, les poules finales cette année encore. Ils seront dans les 6 premiers.
Donc ça devient un club phare du championnat de France.
Complètement. Oui.
Ah oui. Ils ont joué la Coupe d'Europe cette année et là, a priori, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Et donc avoir un club phare effectivement dans la région, ça joue.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est quelque chose qui est emblématique pour les enfants.
En fait, quelque part, avoir un modèle.
Oui.
Pour nous, se motiver.
Nous, on a des joueurs qui performent bien, qui signent en espoir au Loup.
Alors, parlez maintenant, plus en détail, de votre club de rugby, le club de Villefranche.
Alors, le club de Villefranche a été créé en 1908, donc c'est un centenaire de plus de 110 ans, quoi, 111 ans cette année, et dont la politique a toujours été axée sur la formation. Il y a beaucoup d'équipes jeunes, puisqu'on a des équipes pratiquement doublées dans chaque catégorie. On a pratiquement 550 licenciés, presque 300 enfants à l'école de rugby, donc jusqu'en minime. Deux équipes cadets, deux équipes juniors. Et vraiment, la caractéristique de ce club, l'essence de ce club, c'est la formation. Dimanche passé, nous sommes allés jouer à Épernay, en Champagne. Mmh. On a fait une belle victoire, 46-17. Et sur le 15 de départ, il y avait 11 formés au club.
Très bien. Ouais. Et parlez-nous de l'équipe première.
Donc l'équipe première est actuellement en tête de championnat de France de Fédéral 2.
Alors ça correspond à quoi? Parce que j'avoue que je ne connais
pas
bien.
Donc si vous voulez, vous avez le top 14, oui, professionnel, le Pro D2 professionnel, après la Fédéral 1, donc semi-pro, et nous sommes en Fédéral 2.
C'est pas mal.
Ah
c'est
oui, bien. Donc avec une poule avec trois clubs parisiens, Épernay, Nuit-Saint-Georges, des clubs du Jura. Donc on est dans une poule qui est sur le quart est de la France.
Et financièrement, vous arrivez à suivre?
Ben, disons que c'est un travail quotidien du président et du comité directeur, puisque pour aller chercher de l'argent, il faut aller chercher des sponsors, et c'est ce qu'on s'attache tous les jours à faire.
D'accord.
Donc le budget est environ 600 000 euros du club, et environ 40% est amené par les sponsors, et cette partie va progresser dans les années qui viennent.
Et rappelez-nous où est votre lieu de jeu.
Alors donc on a la chance que l'agglomération de Villefranche construit un très beau complexe à l'escale à Arnas avec 4 terrains et un terrain d'honneur avec une tribune de 2000 personnes. Donc si vous voulez, on a pratiquement l'équipement d'un club de haute fédérale 1, voire pro D2. Et vraiment, on a de la chance d'avoir cet outil qui permet d'avoir autant de licenciés dans des très bonnes conditions dans ce complexe sportif.
Et quels sont vos rapports avec la mairie ?
Ils sont excellents, puisqu'on s'appelle CS Villefranche et qu'on est un peu les ambassadeurs de Villefranche lorsqu'on joue à l'extérieur. Et donc, on est soutenu beaucoup financièrement et puis énormément par les élus de Villefranche qui sont toujours derrière l'équipe.
Et vos rapports avec le football et avec l'équipe locale ?
Ah ben, ils sont aussi excellents puisque on se voit régulièrement. On a des échanges entre bénévoles puisque quand ils ont des grosses manifestations, nos bénévoles du rugby viennent les aider et vice-versa. Donc on a des rapports extrêmement amicaux et cordiaux.
Et personnellement, je connaissais très très peu le rugby ici parce que je le trouve très peu médiatisé. On a beaucoup parlé de Villefranche qui a joué contre le PSG en Coupe de France. Mais c'est vrai que, du club de rugby, même dans les informations régionales, non ?
Ben, on a une... tous les mardis soirs, on est interviewé chez vous, au niveau sportif.
Ah oui ?
Je sais que j'ai quelqu'un du comité directeur qui vient tous les mardis soirs parler du match du... tous les lundis soirs, pardon, parler du match du dimanche. Après, c'est vrai qu'en communication, on était pas très connu, mais depuis 2 ans, on performe beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on a une page Facebook à presque 3500 abonnés, sur Instagram, et puis on a une newsletter qui part à plus de 800 personnes deux fois par mois.
Et justement, si jamais vous montez en Fédéral 1, c'est ça ?
Oui.
Votre budget va monter, je suppose ?
Oui.
Et vous serez peut-être du coup plus connu ?
Bien sûr. Bien sûr. Et puis, on aura des très belles affiches, parce que si on monte, on pourrait avoir Villefranche-Bourgoin, on pourrait avoir Villefranche-Chambéry, Villefranche-Nice, Villefranche-Dijon. Donc, c'est vrai que c'est des affiches haut de gamme qui feront venir des amateurs de rugby de toute la région.
Et combien a-t-il de spectateurs en moyenne ?
Le dernier match, on a reçu Le Creusot, oui, donc il y a un beau club de rugby. On était à peu près entre 800 et 900.
En termes, c'est pas mal, parce que quand on regarde le football, alors le stade Armand Chouffé, moi, personnellement, je trouve un petit peu limite pour jouer, parce que l'équipe de football joue quand même en national. Est-ce que vous croyez, mais ça c'est plus le football, qu'eux vont jouer sur la même pelouse que vous ? Ou est-ce qu'ils vont rester à Armand Chouffé dans l'avenir ?
Ah ben, alors, donc, il y a 12-15 ans, le rugby jouait à Armand Chouffé. avec le football en alternance. Et puis bon, ben, le foot disait toujours que les mêlées abîmaient la pelouse. Enfin, c'était toujours les remarques rigolotes hein, du lundi matin. Et donc, les élus à l'époque ont décidé de créer un complexe. Et puis donc, c'est le rugby qui est parti à Arnas et le foot est resté à Armand-Chouffet. Mais moi, à titre personnel, en équipe première, j'ai joué à Armand-Chouffet.
D'accord. Ouais. Très bien.
C'était le club du foot et du rugby.
Bon, bah écoutez, nous allons faire une petite pause musicale avec une musique en rapport avec la victoire, notamment dans le milieu du sport collectif, Queen, We're the Champions.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through.
And I need to go on. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Menteur.
Poker menteur.
Galade.
C'était Queen, We Are the Champions. Alors revenons quelques instants, quelques minutes même, et parlons maintenant un peu des actions sociales que vous faites dans le bassin de Villefranche. Pouvez-vous nous en expliquer un petit peu plus
Oui, ben, vous savez qu'au rugby, on est assez fournisseur des cliniques et des hôpitaux le dimanche soir ou le lundi matin, mais pas très longtemps. Mais il y a beaucoup de chocs, de plaies, de bosses. Et donc, on a des rapports assez courtois et bien établis avec le monde hospitalier. Et notre chargé de communication a eu l'idée cette année de faire une animation à l'hôpital de Villefranche. Mmh. Et où malheureusement des enfants atteints de choses pas très drôles. Et on est venu les divertir toute une après-midi, des joueurs, avec des ballons en mousse. Ils ont joué avec les enfants, on a laissé des cadeaux aux enfants, et ça a été vraiment un moment de bonheur et rayon de soleil pour ces enfants. Et ça a aussi été quelque chose qui était très important pour les joueurs, qui ont vraiment beaucoup apprécié ce moment.
Je pense que vraiment ça doit être important pour un jeune qui est dans une situation absolument terrible, de voir qu'on les oublie pas.
Oui. Non, ça a été vraiment tout le monde était ému, avait les poils hérissés sur les bras, le personnel aussi, et c'était un très beau moment de partage.
Alors, il y a aussi des moments de partage avec les fêtes du Beaujolais ou les fêtes de Villefranche. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors cette année, on a décidé d'épauler nos jeunes conseries qui feront les 20 ans l'année prochaine en 2020. Et donc, tous nos conseries nés en 2000, le club a décidé de leur offrir une partie du pactage du conserie, c'est-à-dire la chemise, le nœud papillon, les gants et l'écharpe, pour dire que les conseries, c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux dans la calade, et que faire les conseries, c'est aussi tout l'esprit du rugby, la troisième mi-temps, et que le CSV est à fond derrière le monde des conseries.
Très bien. Alors, changeons un peu de thème. Parlons maintenant sur l'évolution du jeu lui-même depuis, en gros, que le rugby est professionnel. Il est professionnel depuis quand, le rugby, à peu près, en France
1995.
Et dans le restant du monde, quels ont été les précurseurs?
Je crois que c'est à peu près 1995.
C'est tout le monde en même temps?
Tout le monde s'est uniformisé. Bon, c'est un, comme on disait avant, un professionnalisme marron, parce que, bien évidemment, que les joueurs première division étaient rémunérés et défrayés, mais il n'y avait pas de fiche de paye comme maintenant, où maintenant c'est un statut de salarié organisé comme le monde professionnel, le basket ou le football.
Alors il y avait combien d'heures d'entraînement par semaine avant le professionnalisme à peu près?
Alors, donc je suis un grand lecteur du Midi Olympique et le journal du rugby, et hier il y avait un grand article sur M. Raoul Barrière, qui était l'entraîneur de Béziers, qui était un entraîneur mythique, et qui a été 6 fois de champion de France avec Béziers. Mmh, et il disait, pour les phases finales, on s'entraînait 3 fois par semaine. Alors ça m'a bien fait rire, parce que nous, déjà, à notre niveau, on s'entraîne 3 fois par semaine. Et maintenant, le monde professionnel, c'est 3 fois par jour, quoi.
D'accord. Alors donc, arrivée du professionnalisme, quelles sont les conséquences positives et négatives? Est-ce que vous pouvez un peu...
Conséquence positive, c'est que les joueurs sont mieux préparés physiquement, les matchs sont plus spectaculaires, il y a plus d'essais, c'est plus agréable à voir. Les touches, les règles ont aussi changé, les touches et les mêlées sont plus propres à jouer, donc le jeu est plus spectaculaire. Alors les conséquences négatives, c'est qu'il y a, au niveau professionnel, j'entends pas amateur, au niveau professionnel, il y a plus de chocs, donc il y a une traumatologie qui est un peu plus... pousser du fait de la préparation physique plus aboutie. Quoi.
Et dans le style du jeu, par exemple, par rapport à la France, le style de jeu?
Moi, je ne veux pas juger l'équipe de France, parce que je n'ai pas les compétences pour juger techniquement, mais disons que le jeu en général est devenu plus... Il y a plus d'impact, plus de choc, mais on voit que certaines équipes au niveau international, notamment les All Blacks, sont revenues à un jeu de... plus d'évitement, comme il y avait auparavant, on parlait du French Flair. Mm-hmm. Et je souhaite, en tant que supporter, comme tous les Français de l'équipe de France, elles reviennent à ce French Flair, qui était un jeu d'inspiration et un jeu d'évitement avec beaucoup de créativité.
Oui, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, quand je regardais le rugby, quand il y avait Roger Coudert qui commentait, c'était un plaisir de voir l'équipe de France, même si elle perdait.
Oui, il y avait toute la poésie de Roger Coudert.
Il y avait ça, il y avait Allez les petits, hein, c'était les petits, ça. Ouais. Et puis il y avait des joueurs mythiques, Bianco, le joueur qu'on ne va pas citer. Il y avait des joueurs mythiques et il y avait toujours cette sensation de plaisir. J'ai regardé le match, je suis honnête avec vous, j'ai regardé le match contre l'Irlande, je ne sentais aucun plaisir dans le jeu, aucun plaisir.
C'est vrai qu'à l'époque, les Français pouvaient attaquer, comme on dit, leur ligne des 22, et puis ils étaient imprévisibles, improbables, et ils allaient marquer des essais. On parle de l'essai du siècle en 1994 en Nouvelle-Zélande, où on gagne là-bas, et l'essai, on part de notre ligne d'en-but et on va marquer en face. C'était la créativité à l'état pur. Maintenant, le jeu français a changé, et c'est vrai qu'on prend moins de plaisir. Je pense que... Il y a un temps pour tout, et qu'on va repartir vers cette créativité. Il faut voir que l'équipe en tête du championnat de France, c'est le Stade Toulousain, qui marque beaucoup d'essais, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie un peu folle de marquer des essais. Et je pense que l'inspiration de l'équipe de France peut se baser sur le jeu du Stade Toulousain actuellement.
Alors il y a aussi, je crois, une grande ville de rugby, hein, c'est Clermont-Ferrand.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de son jeu? Parce que je ne le connais pas. Est-ce que c'est du même style?
C'est plus Massif Central, si vous voulez.
D'accord.
Que le Stade Toulousain. Voilà, Mais bon, c'était une grande équipe de rugby qui a de très beaux résultats, très beau public. Et actuellement, c'est vrai que la créativité est plus toulousaine, comme depuis tout temps. C'est l'essence même du jeu à la toulousaine. Jeu de main, jeu de Toulousain.
Alors, monsieur Dautrive, à votre époque, il y a quelques années seulement, hein, comment jouait au rugby ?
Ah ben, il y a quelques années, il y a 50 ans. Hein.
Oui, c'est quelques années, c'est rien du tout.
on jouait comme on jouait à l'époque, c'est-à-dire on s'entraînait beaucoup moins. Et puis, ma foi, on était moins costaud, ça c'est clair, on était précis. Quand je vois à quoi je ressemble aujourd'hui, je me demande comment je jouerais.
D'accord.
Ben, c'est pas les mêmes modules.
Hein. Dans les trois quarts à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs qui faisaient de l'athlétisme. Et c'est, parce que quand on est trois quarts, on a le ballon en main, il faut courir. Et c'est vrai que ça a été aussi une façon de s'entraîner. Beaucoup de...
J'avais souvenir dans les années 80 qu'il y avait des joueurs français qui couraient le 100 mètres en 11 secondes.
Ils étaient très rapides parce qu'ils faisaient de l'athlétisme. Ouais.
Ouais. Ouais. Donc ils devaient sans doute effectivement faire du 100. Enfin, 11 secondes ou 100 mètres, je précise.
Oui, bien sûr. Ouais.
Oui, pas au 400 mètres, parce que là, à mon avis, il y aurait un problème de dopage. Alors, pas 11 ans. Le dopage et le rugby, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Alors, je vais être honnête, hein, je ne veux pas faire de langue de bois. Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu à affronter ce genre de dossier ni de soucis. Au niveau amateur, hein, dans mon club, on n'a aucun souci. Le seul dopage que je regrette dans mon club, c'est l'excès de bière en troisième mi-temps. Mais bon, ça fait partie aussi
Ça, c'est du dopage en vente libre dans les grandes surfaces.
Ouais. Ça fait partie de l'esprit du rugby, donc c'est toujours un plaisir d'avoir ces moments-là. Mais bon, au niveau amateur, j'ai pas d'informations du tout. J'ai pas d'informations sur ce dossier. Ils font beaucoup de musculation, hein, et c'est vrai que c'est des armoires à glace. Il y a une commission qui suit ça. Je peux pas vous en dire plus. Je sais pas.
Très bien. Alors, donc le dopage, s'il existe, à mon avis, il doit exister. Il existe dans tous les sports. Il faut être honnête. Dans tous les sports, il existe. Ce qui se passe, c'est que dans le cyclisme, ils sont énormément contrôlés. Donc c'est pour ça qu'on dit oui. C'est surtout dans le cyclisme. Non, à mon avis, c'est partout. Et vous avez peut-être entendu récemment qu'il y a eu, c'est Aurillac, je crois, un jeune garçon qui est décédé. Vous avez peut-être entendu, je dis pas de bêtises. Hein. Alors, monsieur Dautrive, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben ça, c'est dû au choc, aux commotions. Il y a des pépins, oui. Il y en a un qui est mort, je crois, en rentrant dans les vestiaires à Aurillac. Et puis, il y a récemment un espoir d'un club parisien qui est mort sur le terrain.
Oui, alors,
mais ça fait sur combien de licenciés ?
Disons que
c'est marginal quand même.
C'est dramatique, hein, ces décès. Le cas du jeune Parisien, c'était un espoir du Stade français qui jouait contre les Espoirs de Bordeaux et qui avait très peu de matchs d'espoir. Il jouait contre des gens extrêmement affûtés physiquement. Donc c'était à la limite de la jouabilité pour le jeune. Mais c'est vrai qu'on a médiatisé ça au niveau professionnel. C'est vrai que sur l'ensemble des licenciés, c'est très peu. Hein, c'est beaucoup moins que d'autres sports. Et actuellement, on est sous les feux de la rampe. Comme le cyclisme l'a été sur le dopage, et comme vous l'avez dit, ils ont pris énormément de mesures sur ce problème-là.
Oui, et c'est un fléau, hein, qui dure depuis très très longtemps. Moi, j'ai référence, quand j'en parle à mes élèves, c'est qu'à l'époque soviétique, souvenez-vous, le dopage était d'État. C'est resté avec les problèmes, vous savez, entre la fédération russe et tous ces dopés des sports de neige. Et ça perdure. Et nous, dans les pays occidentaux, c'est un dopage plutôt privé et individuel. On te dit, voilà, tu vas prendre telle ou telle chose, tu vas prendre tant en quantité musculaire, etc. Et je pense que pour arriver à un certain niveau, à mon avis, il y aura des intérêts considérables qui fait que le jeune, il y va, quoi. Je pense. Hein. C'est un fléau, je pense qu'il faut vraiment combattre.
Ah oui. Bon, nous, c'est un sport collectif, hein, donc je pense que le fléau est moindre que sur un sport individuel.
Sans doute. Oui. Sans doute. Parce que l'athlétisme, par exemple, même le tennis, j'étais surpris, le tennis aussi. Donc, ça, c'est un fléau qui touche absolument tous les sports. Alors, le pire, évidemment, c'est l'haltérophilie, où là, c'est carrément. Je sais pas si c'est légalisé, mais c'est une pratique, obligatoire pour pouvoir faire ce genre d'activité. Alors, on va passer à la deuxième pause musicale. Et nous allons écouter donc un morceau qui s'appelle Pena Bayona, c'est ça hein?
La Peña Bayona, c'est
Peña
la chanson.
Bayona, oui.
La chanson de l'AS Bayonne et qui joue en bleu et blanc comme le CSV.
D'accord, et donc ça passe toujours dans les troisièmes mi-temps.
Bah, c'est une chanson mythique du rugby.
C'était la Peña Bayona, donc c'était a priori un morceau extrêmement célèbre dans le milieu du rugby. Et on le retrouve dans les troisièmes mi-temps. Rapidement, les troisièmes mi-temps, c'est toujours aussi mythique, c'est toujours aussi,
oui.
Un moment de relâchement.
Un moment de relâchement, tout dépend du score des deux premières.
D'accord.
Si le score est en notre faveur, la troisième mi-temps est à l'image des deux premières, c'est-à-dire... joyeuse, gaie et un bon moment de partage.
D'accord.
Ça fait partie des moments très importants du rugby.
Est-ce qu'on retrouve la même chose maintenant encore, même à haut niveau, au niveau professionnel?
Je pense, oui. Oui. Bon, c'est plus encadré parce que les excès du dimanche soir pénalisent le joueur professionnel. Mais elles sont toujours là. Bon, après, quand c'est le dernier match de la saison sur une victoire en finale, oui, il y a toujours des forts troisième mi-temps.
Alors, je vais revenir sur deux autres points, notamment sur les centres de formation dans le milieu scolaire, c'est-à-dire les sports-études. Est-ce que ça existe comme dans le football?
Alors, il y avait un sport-études à Villefranche-Aulnay-sous-Ormand depuis très longtemps, donc, qui était géré par en partie la Fédération française et l'Académie. Et donc maintenant, c'est rapatrié auprès des clubs professionnels, ça s'appelle des académies. Donc la section, le sport-études est terminé à Villefranche. Mais par contre, il y a une section sportive. Donc c'est où les enfants sont scolarisés et pratiquent le rugby en plus de la scolarité. Donc ça, c'est au niveau de Louis Armand avec des joueurs d'autres clubs. Et nous, au club de Villefranche, nous avons créé un centre d'entraînement où on prend en charge les enfants tous les soirs. On a un système de navettes qui rapatrie les joueurs à l'escale. Ils font du rugby tous les jours, ils font de l'athlétisme, ils ont des cours diététiques, ils ont des cours de préparation mentale. Et donc on a un très bon résultat parce qu'ils sont... essentiellement juniors et certains on joue également seniors et avec toujours une exigence sur les résultats scolaires.
Et oui, c'est important. Et est-ce qu'il peut y avoir une concurrence directe? C'est-à-dire, est-ce qu'un jeune peut hésiter entre le football évidemment et le rugby? Est-ce que ça arrive souvent?
Alors, c'est vrai qu'un jeune est amené au rugby souvent parce qu'il a un copain. On va moins spontanément au rugby qu'au football. Et c'est vrai que... c'est pour ça que c'est des équipes de copains. Au football, on y va plus de façon isolée.
D'accord.
Alors, oui, il y a des joueurs de rugby qui ont joué au football et inversement, certains qui arrêtent, qui repassent à d'autres sports.
Et les autres sports, c'est lesquels, vous savez pas, non ?
Ça peut être du hand, ça peut être du basket, ça peut être essentiellement un sport collectif quand même.
Voilà. Bien sûr. Voilà. Et un point aussi donc, que je voulais aborder avec vous, c'est le rugby et les femmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Par rapport notamment, est-ce qu'il existe un rugby féminin ?
Voilà, c'est une très bonne question. Je vous remercie de vous la poser. Ouais, c'est quand on fait de la politique, on apprend à dire ça.
Oui.
Le rugby féminin est en plein essor en France. Mm-hmm. Et nous avons actuellement 20 filles qui jouent au niveau minime. Donc jusqu'au niveau minime, c'est-à-dire moins de 14 ans, elles peuvent jouer avec les garçons. Parce qu'au niveau développement anatomique, elles sont à peu près pareilles. Et après, au niveau cadet, c'est exclusivement féminin. Et donc, nous avons pris la décision, à Villefranche, de créer une équipe féminine cadet pour les années qui viennent. Et de créer, toujours par la formation, une équipe senior d'ici 2-3 ans, une équipe senior féminine à Villefranche. Parce qu'il n'y a pas d'autres clubs autour de nous qui se lancent dans le rugby féminin, à part le Lyon. Bourg-en-Bresse, et puis à Mâcon, il n'y a pas de rugby féminin. Donc on a pris le parti, le club, de se lancer dans cette aventure.
Donc ça reste assez limité quand même.
Oui, c'est assez limité dans la région. Il y a très peu de clubs pour le rugby féminin.
Et est-ce que les règles sont les mêmes, tout simplement ?
Pareil.
Même temps de jeu, même terrain, même nombre de joueuses ?
Pareil, oui. Même préparation, les mêmes choses. Et alors le temps de jeu, il est peut-être... Non, mais je crois que le temps de jeu est le même.
D'accord. Ouais. Et donc, ce rugby féminin, est-ce que vous pensez qu'il va se développer ?
Ouais, alors, je pense que dans les années qui viennent, la fédération va imposer au club de fédéral d'avoir une équipe féminine. Parce qu'on a vraiment une demande. Les filles veulent pratiquer le rugby et je suis sûr qu'on sera amené à avoir ces équipes de façon plus importante.
D'accord. Et elles ne sont pas professionnelles. Il n'y a pas un championnat professionnel.
Alors, il y a un championnat, le top 16, féminin. Donc, le loup va certainement accéder dans ce top 16 l'année prochaine, où les filles sont semi-professionnelles.
D'accord.
Elles peuvent garder une activité professionnelle, mais elles s'entraînent au moins à mi-temps.
Des compétitions internationales existent ?
Oui, il y a le tournoi à destination féminin. Et nos filles ont... Je crois qu'elles ont gagné en Irlande.
Ouais. Ah bah ça change des garçons.
Là. Oui, ça va mieux.
Et est-ce qu'il y a une troisième mi-temps aussi chez les filles ?
Je pense, j'ai la même information que vous, mais je pense avoir vu dans les réseaux ou à la télé qu'il y a aussi des troisièmes mi-temps sympathiques.
Donc le lundi matin, voilà. Ça va être
l'esprit
un peu difficile.
L'esprit du rugby n'est pas perdu.
D'accord. Donc un essor sans doute, on va dire lent, mais qui ouais. existera.
Alors enfin, nous, on a pris le parti de développer le rugby féminin, parce que comme je vous disais, on veut faire un club de région, et Villefranche et le Beaujolais, et il y a beaucoup de filles qui souhaitent dans le Beaujolais pratiquer ce sport.
Alors, on en vient pratiquement à la fin de l'émission. L'avenir du rugby en France, vous le voyez comment ? Dans le Rhône ? Et à Villefranche ?
Alors là, c'est des questions très, très techniques. L'avenir du rugby au niveau français, je pense qu'il y a un souffle nouveau qui vient du Stade Toulousain, avec un jeu très agréable, pratiqué par des jeunes formés à Toulouse, et avec peut-être moins de mercenaires qui viennent de Fidji ou d'ailleurs, ou des îles, et qui sont pratiqués par des joueurs formés en France. Donc je pense que c'est un point positif. L'avenir du rugby dans le Rhône, il est quand même assez souriant, avec le Loup qui a des très bons résultats, avec une politique de formation, des bons rapports avec les clubs alentours, puisqu'on a, nous, on a de très bons rapports avec eux. Et puis l'avenir du rugby à Villefranche, je pense qu'il est... assez positif, puisqu'on est en train de créer un club de bassin, on a monté un club d'entreprise, on a plus de 100 entreprises qui sont partenaires du club, On est partenaire des viticulteurs, puisque à chaque match, on met un cru du Beaujolais en avant. On fait nos actions dans les quartiers, on développe le rugby féminin. Donc, si vous voulez, on est un club qui va un peu au-delà du rugby, qui s'intègre dans la cité.
D'accord. Et éventuellement, l'avenir du rugby dans le monde, qu'est-ce qui pourrait arriver Qu'est-ce que vous voyez? C'est une question.
Moi, j'aimerais qu'il se développe dans des pays où il est peu développé.
Lesquels, par exemple?
Donc, une très bonne équipe en Argentine, puisqu'il joue dans le Four Nations avec les Australiens, les Néo-Zélandais et les Africains du Sud. Mais il y a des gros pays à côté de l'Argentine, notamment le Brésil. Nous, on a joué avec des Brésiliens. On a actuellement un Brésilien qui joue à Villefranche. Et c'est des pays qui pourraient avoir de belles équipes de rugby, comme les équipes vers la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, où il y a très bonne équipe, que ce rugby deviennent plus internationales que limitées à 15-20 pays dans le monde.
Parce que la Coupe du Monde, rappelez-nous rapidement, la prochaine, c'est quand?
C'est en cet automne au Japon.
Au Japon. Et il y a combien de nations représentées?
20 nations. Voilà. Mais bon, c'est le top 10, le top 15, c'est à peu près toujours les mêmes nations. Et c'est vrai que si on pouvait avoir d'autres nations qui développent le rugby, ça serait vraiment... vraiment intéressant.
Je pense qu'il faudrait absolument que ce soit télévisé dans un maximum de pays. Est-ce que c'est aussi télévisé que le football? Je ne pense pas, non.
Non, je pense pas, non. Bon, c'est très télévisé chez nous, hein, ou dans les pays où on joue au rugby, mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir une audience plus importante.
Oui, parce que moi je pense à l'Afrique. Est-ce qu'on connaît le rugby en Afrique?
À l'Afrique du Sud, mais...
À part l'Afrique du Sud, oui, bien sûr.
Bon, il y a eu une équipe au Maroc, en Algérie, parce que c'était des colons qui, lorsqu'ils faisaient leur armée, avaient monté des équipes. Il y avait des bonnes équipes au Maroc. Mais c'est vrai que c'est un peu plus confidentiel désormais, malheureusement.
D'accord.
Il y avait le Sénégal qui avait fait la première Coupe du Monde en 1995. Mais bon, les pays africains, c'est...
Elles sont entraînées par des Européens, je suppose?
Souvent, oui. Ouais.
Un peu comme le football aussi, d'ailleurs.
Oui.
Ok. Bon, ben, on va dire merci, Monsieur Biguet. Mais avant de vous quitter, merci, Monsieur Dautrive. Reprenons le « Qui suis-je ?» Souvenez-vous. On m'appelait Casque d'or. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, ça vous dit quelque chose. Monsieur Dautrive, c'était qui, Casque d'or?
Jean-Pierre Rive.
Alors, Jean-Pierre Rive jouait à quel poste?
Troisième lignelle.
C'est-à-dire, en gros, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faisait?
Il était dans la mêlée, sur les côtés, et le plus près, c'est eux qui se détachent les premiers pour défendre, notamment.
D'accord. Donc, et c'était le capitaine, je crois.
Souvent.
C'est souvent le capitaine de l'équipe de France.
Bien. Vainqueur du Grand Chelem en 1977.
C'était le premier, non? Premier Grand Chelem?
Non, le premier, c'est en 68, mais là, le Grand Chelem 1977, il a une caractéristique. S'il a été gagné par 15 joueurs qui n'ont jamais été remplacés. Donc les 15 joueurs ont fait les 4 matchs de la première à la 80e minute.
Très bien. Eh bien, nous arrivons au terme de Poker Menteur. Donc je vais souhaiter une bonne soirée et remercier M. Biguet. À très bientôt.
Merci
j'espère.
À vous.
M. Dautrive, à très bientôt aussi. Et Mathieu, bonne soirée. Allez, au mois prochain. Poker Menteur. Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9. Thank you.